I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nous on demande pas d'être payé des mille et des cents, mais c'est juste le fait que le stade soit rempli, nous, ce serait déjà une fierté.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! J'ai profité d'un passage aux étoiles du sport à Tignes pour passer un moment avec l'une des défenseurs stars de l'Olympique lyonnais et de l'équipe de France, Gridge Mbok. Malheureusement blessée au genou depuis plusieurs mois, elle s'est confiée sur ses relations fusionnelles avec sa famille, qui l'a toujours soutenue et encouragée, mais également sur l'ambiance et les relations qu'elle entretient avec les joueuses de l'OL et de l'équipe de France. Si Gridge rêve d'un titre majeur en équipe nationale, elle a conscience qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour remplir les stades dans notre pays. Mais que ce soit dans son sport ou dans sa vie, Gridge fait preuve d'une résilience à toute épreuve. Une personnalité apaisante et posée, qui a pourtant la tête dure, vous comprendrez. Salut Gridge.
Salut.
Est-ce que tu vas bien?
Ça va super.
On est dans un cadre plutôt sympa.
Ouais, il n'y a pas à se plaindre.
On est dans un petit salon pour vous, parce que vous ne savez pas où on est. On est dans un petit salon, c'est assez cosy quand même.
C'est ça.
Si vous entendez du bruit autour de nous, c'est normal, c'est qu'on est, entouré de plein de gens, on est aux étoiles du sport. Mm-hmm. Je crois que ce n'est pas la première fois que tu l'as fait.
Non, effectivement, c'est la deuxième fois. J'étais venue déjà en 2012 en tant qu'espoir et ouais. Pouvoir revenir ici en tant que marraine, c'est top.
Ouais, bah carrément. Ça te fait quoi du coup de venir ici en tant que marraine? Et donc ça fait un peu genre, maintenant tu es confirmée.
Ouais. Bah c'est un peu, c'est une chance parce que voilà, c'est que, comme tu l'as dit, je suis, on va dire, confirmée et je passe de l'autre côté, on va dire. Donc, c'est à mon tour de pouvoir transmettre et partager avec les plus jeunes.
Ça avait changé quelque chose, toi, à l'époque, quand tu étais espoir. Ça t'avait apporté des trucs. Tu avais senti que ça avait été un moment important?
Oui, forcément, parce que j'ai pu échanger avec énormément de monde ici, découvrir d'autres sports, m'ouvrir à d'autres personnes. Et c'est vrai que le foot, c'est un peu fermé, on va dire. Ouais. Et là, pouvoir partager avec d'autres sportifs, c'est vraiment une chance. Et j'en garde de très beaux souvenirs.
Ah, trop bien, j'espère que les souvenirs seront aussi bons sur, sur cette édition-là.
J'en doute pas.
T'as l'habitude de venir à la montagne? On commence par des questions très profondes.
Pas du tout.
C'est vrai?
J'ai jamais skié de ma vie, à part du ski de fond il y a 10 ans quand je suis venue aux étoiles du sport.
C'était la première fois que tu mettais tes pieds dans des skis?
Ouais, c'est ça. Mais sinon, j'ai jamais skié de ma vie.
Bah, généralement, j'imagine aussi que quand tu fais du foot,
C'est pas trop conseillé. Ouais.
Tu peux pas trop faire. Ils vous interdisent d'ailleurs de faire certains sports?
C'est pas conseillé. Les sports extrêmes, le deux roues, ce genre de choses, c'est un peu
proscrit,
compliqué.
Ouais. Mais je comprends en même temps. Bon, écoute, c'est bien, on retourne à la montagne, c'est un environnement différent. Tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas forcément l'habitude justement d'être avec d'autres personnes qui font d'autres sports. Que le milieu du foot, c'était un milieu un peu d'entre-soi, quoi. Tu restais souvent avec tes teams. Ça te fait du bien aussi de rencontrer d'autres gens, d'autres sportifs. Est-ce que tu as l'impression qu'ils ont d'autres, façons de voir les choses?
Oui, c'est sûr, parce que ils ont l'habitude, j'ai l'impression, de se côtoyer en dehors, que ce soit à l'INSEP ou autre. Et du coup, ça fait qu'ils sont beaucoup plus ouverts. Et du coup, on apprend aussi d'eux et de, de leur sport, parce que c'est vrai qu'il y a des sports que j'imaginais, enfin je savais pas du tout comment ça se passait.
Ouais.
Et en échangeant avec d'autres sportifs, en fait, je me rends compte que ouais, je connaissais pas tout, et c'est bien de pouvoir en savoir un peu plus.
T'as appris des trucs là?
Ouais, j'ai appris des trucs. J'ai appris le nom de certaines compétitions.
Okay.
Ouais, c'est pas forcément simple, parce que dans le foot, c'est j'en fais depuis toute petite, donc c'est bien établi et tout ça. Je connais pratiquement tout, mais c'est vrai qu'il y a des sports où ça se passe pas du tout de la même façon, les qualifications, etc. Et voilà, c'est vrai, c'est bien de pouvoir voir autre chose.
Ouais, ouvrir un peu sur d'autres perspectives.
C'est
quoi. Toi, tu le disais, en fait, c'est foot, et depuis toujours.
Mmh.
Ta famille, c'est 100% foot. Ton grand frère fait du foot. Ton petit frère fait du foot.
C'est ça.
Donc, clairement, ça baigne dans le foot depuis toujours. Je crois que tu disais même que tu as commencé le foot en te prenant un ballon dans la tête.
C'est ça.
Quoi.
De mon grand frère. J'avais 3 ans, je crois. C'est mon premier souvenir de foot. Ouais.
Donc, presque, tu n'as même pas eu le choix finalement que de faire du foot.
Ouais, j'avais pas le choix, on va dire. Ouais, mon frère avait besoin d'un sparring partner, on va dire. À l'époque,
et
j'étais là,
ouais.
Du coup, depuis ça m'a pas quitté, et aujourd'hui je l'en remercie de m'avoir mis un ballon dans la tête quand j'avais 3 ans.
Comme quoi finalement,
parfois ça a du bon de se prendre des ballons dans la tête.
Ça marche. Et vraiment, le foot pour toi, ça a toujours été une évidence? T'as toujours, tu t'es jamais posé la question, c'est-à-dire quand t'as pu commencer à taper dans un ballon ou en prendre un dans la tête en l'occurrence, tu t'es toujours dit ok, j'ai envie de faire ça, ça a l'air trop bien. Est-ce que c'est aussi le fait que ton grand frère en fasse qui t'a donné envie?
Ouais, c'est aussi le fait qu'il en fasse, parce que c'est vrai que j'aimais bien faire tout ce qu'il faisait quand j'étais petite.
Ouais.
Donc,
c'était ton modèle?
Ouais, c'était mon modèle, du coup je le suivais partout, il m'a fait m'intégrer partout, et je lui en suis reconnaissante aujourd'hui, parce que ouais, il m'a entre guillemets protégée, et du coup j'ai pu jouer avec tout le monde, que ce soit au quartier, ou que ce soit à l'école, ou en club. Et il a toujours été là, et ça m'a permis de pouvoir m'imposer aussi.
Il t'a permis de t'intégrer en fait
un peu
partout,
ça.
Et peut-être plus facilement
été toute seule. Ouais, c'est ça.
Ça a été vraiment quelque chose d'important pour toi aussi, de que ton frère comme ça te donne la possibilité finalement peut-être de faire des choses que tu n'aurais peut-être pas fait par toi-même?
Bah oui, forcément, parce que un grand frère, c'est souvent une figure d'exemple, et voilà, ça m'a permis de pouvoir persévérer dans ce sport, et d'avoir aussi un exemple, comme je disais, parce que il a été quand même à un bon niveau, et du coup ça m'a toujours inspiré, on va dire.
Ouais, tu disais que c'était ton exemple, maintenant c'est pas toi son exemple.
On va pas le dire trop fort.
Quand même, attends.
Non, il dit que souvent, il nous dit à mon petit frère et à moi qu'on est ses joueurs préférés après Mbappé.
Eh, c'est quand même un compliment.
C'est quand même un compliment. Ouais.
Franchement. Et ça, comment ça se passe du coup, le foot dans ta famille? C'est vraiment... Vous arrivez à parler d'autres choses même quand vous avez des repas de famille?
Non, ouais, on arrive à parler d'autres choses quand même. C'est vrai que c'est quelque chose qui est ancré dans notre famille, mais on arrive quand même à parler d'autres choses, et mes frères surtout, ils aiment beaucoup le basket.
Okay.
Ils suivent la NBA, on aime aussi beaucoup les Marvel.
Trop bien.
Donc moi en fait je m'y suis mise parce que eux ils y étaient, et que en fait je me souviens, c'était un dîner de famille à Noël dernier. Toute ma famille parlait de ça, même mes petits cousins et tout.
Tout le monde parlait de Marvel.
Tout le monde parlait de Marvel, et moi j'étais larguée, et je disais mais c'est le dernier Noël que je passe où je suis larguée comme ça et tout. Du coup j'ai rattrapé tous les Marvel, et depuis je suis à jour, je suis même limite en avance sur eux.
Allez.
Donc dernière fois que je suis écartée d'un sujet comme ça.
En fait c'est des sujets d'intérêt de groupe dans ta
c'est
famille.
C'est ça.
C'est que t'as
ça.
Pas le choix finalement.
J'ai pas le choix.
T'as pas le choix de t'intéresser.
Ouais, c'est ça.
Parce que justement c'est quoi, comment tu te mets à part, on va dire, comment tu prends ta place unique dans ta famille? Est-ce que tu as des trucs qui sont juste à toi?
Déjà, je suis la seule fille.
Ouais.
Donc, je suis la fille préférée de ma mère. Non, après... c'est vrai qu'on partage beaucoup de choses quand même, parce que même, j'allais dire, la musique, mais même eux, ils écoutent énormément de musique, et ils sont vraiment à fond, limite des fois plus que moi, je crois. Et après, Non, franchement, c'est vrai qu'on partage pas mal de choses quand même, je trouve. Pas mal de choses.
Donc finalement, en fait, c'est aussi c'est ce qui te motive, c'est ta force d'avoir tous ces points communs, toutes ces... cette synergie commune aussi avec ta famille.
Bah oui, forcément, parce que voilà, on échange tous les jours. Et c'est vrai que c'est, pour moi, c'est important d'avoir un lien avec ma famille, surtout qu'on est assez éparpillés. Ouais, assez éparpillés, donc on ne se voit pas forcément tout le temps. Donc ouais, quand on peut échanger, c'est toujours... C'est toujours un bonheur et on en profite. Quoi.
Ça s'est passé comment? Parce que c'est vrai que toi, t'es partie à Lyon en 2015.
C'est ça.
Donc ça fait 7 ans maintenant déjà. T'étais assez jeune à l'époque quand t'es partie. Comment ça s'est passé justement un peu cette rupture?
Mais en fait, c'était... je suis partie même avant parce que j'étais en Pôle Espoir à Rennes.
Ouais.
Du coup, je suis partie à mes 15 ans, 14 ans et demi, 15 ans. Et j'étais en internat. Et je faisais des trajets entre Rennes, Guingamp, Brest. Et du coup, j'étais pas forcément chez moi tout le temps. Et ça s'est fait comme ça au fur et à mesure. Et je pense que cette transition a permis aussi de faciliter après
Le départ plus loin.
Mais non, après, ma mère essaye de venir me voir quand elle peut, quand elle a des vacances. Étant donné qu'elle travaille dans l'éducation nationale, elle peut, elle a ses vacances scolaires. Donc elle essaie de venir et quand moi j'ai pas de compétition aussi, enfin de trêve internationale on va dire, et mes frères après, c'est un peu plus compliqué parce que aussi ils ont un calendrier
ça doit
assez
être
chargé
le bazar de... entre tous vos...
C'est ça en fait, on peut passer Noël ensemble souvent, et là encore cette année ce sera peut-être pas le cas parce que mon petit frère joue à cause de la trêve de la Coupe du Monde. Il joue le 26 décembre, donc ça risque, on risque de ne pas forcément le voir.
De fêter ensemble.
Voilà. Mais sinon, c'est pendant les vacances d'été et encore, si on n'a pas de compétition, nous, en équipe de France. Donc, c'est assez compliqué de réunir toute la famille à chaque fois. Mais on essaye quand on peut, en tout cas.
Ouais, écoute, c'est vrai qu'on sent que c'est quelque chose d'important. Mm. Et je crois que ta maman aussi, elle est hyper investie dans le milieu associatif. Et au-delà du foot, parce que j'imagine qu'elle n'a pas trop le choix, toi.
Elle n'a pas le choix.
Toi, le milieu associatif, parce que tu viens de là, finalement, aussi. Je veux dire, tu as commencé le foot dans les petits clubs près de chez toi. C'est quelque chose qui est important. Alors, c'est vrai que maintenant, tu es à l'OL, qui est juste le meilleur club français. Je me permets de le dire.
Je ne vous en veux pas.
Voilà. Et tu fais aussi partie de l'équipe de France maintenant depuis un certain nombre d'années. Tu as beaucoup de sélections en équipe de France. Est-ce que cet ancrage, tu parlais de ce mot-là, du mot ancré tout à l'heure, cet ancrage est toujours important? Est-ce que les petits clubs, c'est aussi quelque chose qui est important, dans lequel tu as envie de t'investir?
Forcément, c'est quelque chose d'important, parce que sans ces clubs, le milieu professionnel n'existerait pas. Mmh. C'est de là que sont issus tous les joueurs. En fait, ils ont tous commencé dans un club associatif. Et d'ailleurs, on l'a vu... il y a pas longtemps avec l'équipe de France qui ont porté le maillot de leur début. Donc on sait que c'est important, les bénévoles sont importants, on sait que c'est des choses qui restent gravées aussi, ils nous inculquent des valeurs et on a la chance de pouvoir partager avec pas mal de monde et c'est des années qu'on n'oublie pas parce qu'on partage beaucoup de choses avec beaucoup de gens et c'est une chance. Et moi j'en sors. Moi je sais que je suis toujours en contact avec mon ancien club l'AS Brestoise et avec des dirigeants aussi, mes anciens dirigeants. Et j'essaie de, quand je peux, aller les voir. Et d'ailleurs j'y étais juste avant l'Euro. Et c'était chouette, franchement. Même les petits ils sont à fond. Parfois j'essaie d'aller dans l'école de ma mère. souvent elle organise des, c'est les personnes avec qui elle travaille. Les profs essaient d'organiser des échanges avec les enfants et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez plaisant parce que les petits sont curieux et ils ont souvent des questions, même si des fois c'est des questions un peu farfelues, on va dire. Comme s'ils sont innocents, en fait, ils posent des questions comme ça et des fois ils me demandent est-ce que t'as une Ferrari par exemple. Non, j'ai pas de Ferrari. mais non, c'est bien de pouvoir échanger aussi avec la nouvelle génération et si ça peut les faire rêver aussi, si ça peut leur faire plaisir, c'est top.
Tu te rends compte que justement d'être en équipe de France, tout ça, pour eux, c'est genre waouh, et que bah, ils rêvent d'être toi, finalement. Ça, c'est un truc que tu conscientises ou pas?
Bah, en fait, au début, j'ai un peu de mal parce que, je sais pas, je me voyais pas comme un modèle et tout, etc. Mais en fait, au fur et à mesure, quand on échange avec les petits et que ils nous disent, ouais, je t'ai vu à la télé, ouais, j'ai envie de faire pareil, etc. Bah, forcément, c'est quelque chose qui, bah, qu'on est obligé de prendre et, ouais, prendre cette place-là d'exemple, de modèle et, voilà, d'essayer d'être le plus exemplaire possible pour pouvoir, bah, essayer de les inspirer, quoi.
Ça va, ils ont pas tous envie d'être attaquants. Tu leur dis la défense, c'est bien aussi.
Bah ouais, y a pas le choix. Y a pas le choix. Faut essayer de promouvoir son poste aussi. C'est important.
Ça va, ça marche.
Il peut pas y avoir que des Mbappé, hein.
Bah, c'est normal. Bah, attends, ouais. Sinon, je veux dire, une team de foot, ça marche pas comme ça.
Bah hein. Oui, c'est clair.
Et tu, et comment, enfin, est-ce que toi, à l'heure d'aujourd'hui, là, c'est vrai que moi, t'es blessé, du coup, t'as un peu plus de temps. Tu t'investis aussi, ça te laisse du temps pour faire ces choses-là?
Oui, c'est important parce que déjà d'une, je retourne voir ma mère.
Ouais.
Là, depuis que je suis blessée, j'ai pas forcément eu l'occasion parce que j'ai été hospitalisée quand même
assez longtemps.
Mais dès que je passe à Brest, voilà, je profite de ma famille, je profite de me ressourcer parce que c'est important. Et voilà, après, quand je peux aller échanger avec les jeunes, j'y vais.
Mmh.
Et ouais, c'est toujours des moments agréables, même quand je rencontre l'équipe d'enseignants avec qui ma mère travaille.
Ouais.
Ils sont toujours admiratifs et toujours plein d'encouragement envers moi. Donc, c'est quelque chose qui fait plaisir.
Tu parles de ça, du coup, ils ont mis vraiment des choses en place. Ta mère, son association, ils font quoi concrètement?
Ils n'ont pas forcément mis de choses en place, mais... je me souviens que j'avais fait une intervention devant toute l'école,
okay,
pour que les petits puissent poser des questions, toutes les questions qu'ils voulaient, que je puisse me présenter aussi ce que je faisais. Et je sais que bah, y avait eu beaucoup de retours positifs, que les enfants étaient contents, même les parents. Voilà, ils trouvaient ça super d'avoir pu échanger avec leurs enfants et que quand les enfants revenaient chez eux, bah, ils étaient contents de me raconter ça à, ouais, à leurs parents, quoi.
J'ai vu une joueuse de l'équipe de France. T'avais imaginé tout le parcours que t'as aujourd'hui quand t'étais plus petite?
Bah, c'est difficile d'imaginer tout ça, mais forcément c'est, enfin, je le voulais parce que quand on est jeune, on aspire toujours à de grands rêves. Et moi, je me souviens, pour l'anecdote, que quand j'étais petite, je savais pas que l'équipe de France féminine existait. C'est-à-dire, pour moi, je voulais jouer en équipe de France, mais je voyais que
les garçons.
Donc je me disais, c'était avec les garçons et tout. Et c'est en grandissant que j'ai appris qu'il y avait une équipe de France féminine, etc. Et à partir de là, c'est devenu un objectif. Et quand je voyais aussi la Ligue des Champions à la télé avec l'Olympique Lyonnais, bah ouais, je me disais, c'est ce que je veux faire, c'est là-bas que je veux jouer.
Tu t'es donné tout. T'as toujours eu le sentiment de te donner les moyens d'arriver à tes objectifs?
Oui, je pense. Je pense que oui. J'ai toujours travaillé en ce sens-là. C'était pas forcément toujours facile, mais je pense que j'ai fait le nécessaire pour pouvoir y être. Et je continue à travailler malgré. Les petits pépins que j'ai pu avoir dans ma carrière, que j'ai encore actuellement. Mais j'ai toujours comme objectif d'aller plus haut, plus loin. Et j'espère continuer à gagner des titres en club et pouvoir aller décrocher un premier titre en équipe de France aussi.
Ouais, quand tu dis plus haut, plus loin, c'est ça l'objectif,
ouais,
vraiment?
Ouais, c'est ça. C'est ça l'objectif. Parce que c'est vrai que jouer en équipe de France, c'est une chance. C'est un rêve pour toute petite fille. Et pouvoir décrocher un titre majeur, c'est forcément une fierté de pouvoir le faire et j'aimerais un jour pouvoir la vivre.
Mmh. C'est vraiment ton rêve ultime, ce qui pourrait mettre la cerise sur le gâteau de ta carrière.
C'est ça.
Et que ce soit européen, monde, bon, ça va.
Européen, mondial.
Peu importe.
Peu importe. Même si j'aimerais bien avoir le package.
Tout.
Mais, c'est ça.
On fait la totale.
Exactement. Mais décrocher un premier titre déjà, ce serait vraiment énorme.
Tu penses que ça va même au-delà de ta carrière? Parce que je me souviens, j'ai lu une interview de toi où tu disais que c'était aussi important pour le foot féminin d'avoir un titre majeur, que ce soit pour l'aspect médiatique, pour l'intérêt du grand public aussi. Tu penses que c'est vraiment la clé, une des clés ?
Oui, je pense que ça passe par là aussi. On a vu en 2019 qu'il y avait énormément d'engouement, que niveau médiatisation, on était au top, il y avait des audiences incroyables. Et malheureusement, ça s'est essoufflé parce que on n'a pas gagné et que je pense que oui, les Français attendent un titre majeur aussi, peut-être pour plus venir au stade, plus vouloir découvrir le championnat. Et on l'a vu cet été avec l'Angleterre qui a gagné son Euro à domicile. Et j'étais en Angleterre ce week-end à Manchester United, à Old Trafford, ils ont joué là-bas et il y avait 30 000 personnes.
Ah ouais.
Et ça fait rêver. Et ouais, c'était pas forcément une rencontre majeure. C'était contre Aston Villa. C'était pas un derby. C'était pas une grosse rencontre. Mais voilà, les gens se sont déplacés et ouais, c'était beau à voir.
T'as vraiment senti qu'après 2019, c'est un peu retombé comme un soufflet, qu'il y a eu un intérêt du grand public et que finalement l'intérêt a pas perduré, malheureusement, alors que les gens pensaient que ça allait créer un peu une émulation à ce moment-là.
Oui, c'est sûr. On était un peu frustrés parce que quand on est revenu à la rentrée, il n'y avait pas beaucoup de monde dans les stades.
Ouais.
Et c'est assez frustrant parce que nous, on fait du foot pour vivre ce genre d'émotion. Et quand les stades sont remplis, c'est magnifique. Nous, on ne demande pas d'être payés des milliers et des cents, mais ça pourrait être bien, mais juste le fait que le stade soit rempli, nous, ce serait déjà une fierté. Et on l'a déjà vécu. Par exemple, l'année dernière, en demi-finale de Ligue des Champions contre le PSG au Parc, il y avait 43 000 personnes et c'était énorme. Et pareil pour la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions contre Barcelone, c'était rempli, même si c'était aux trois quarts rempli de Barcelonais.
C'est pas grave, justement, l'ambiance.
Ça met de l'ambiance et ça nous galvanise aussi. Et voilà, c'est magnifique, en fait, un stade rempli.
Tu penses que c'est vraiment ça la différence ? Là, tu faisais la comparaison avec l'Angleterre, par exemple, qui fait que, malheureusement, en France, l'engouement est encore assez mitigé. Et qu'en Angleterre, où est-ce que c'est pas... Est-ce que ça va pas plus loin ? Est-ce que c'est pas, finalement, dans la culture
Peut-être
française ?
Peut-être culturelle, je sais pas, oui, c'est possible. Je sais que les Anglais aiment énormément le foot. Mais je me dis qu'en France aussi, ça pourrait être le cas, parce que en Angleterre, ce que je voyais, c'était aussi un public assez familial. Et je sais qu'en France, il y a beaucoup de familles aussi qui aimeraient, je pense, venir voir le foot féminin. Et parfois, je pense que les horaires aussi sont assez défavorables à ce que des familles puissent se déplacer au stade.
Ouais. Et ça, comment faire pour le changer ? C'est toujours la question.
Mais en fait, c'est soit on gagne en visibilité à la télé, soit on gagne en influence dans le stade, j'ai l'impression pour l'instant. Donc, il faut trouver le juste milieu, je pense.
Tu penses quand même que ça peut changer ? T'as bon espoir, toi ?
Ouais, moi, j'ai bon espoir, j'espère. J'espère que ça changera pour les générations futures aussi. Voilà, nous, c'est ce à quoi on aspire, c'est que notre discipline soit encore plus reconnue et qu'il y ait encore plus d'engouement, et surtout au niveau du championnat, parce que c'est vrai qu'en équipe de France, on a quand même un public qui se déplace. Mais c'est vrai qu'on aimerait qu'en championnat, il y ait plus de... Il y ait plus d'affluence.
Bien sûr. Est-ce que, tu vois, parce que moi je me rends compte aussi, j'ai l'impression, pour suivre le foot féminin, depuis quelques années, que tu as aussi des figures du foot féminin qui émergent, soit en Angleterre, en Australie, aux États-Unis, et même en France, bien évidemment. Et que ça peut être aussi la clé, c'est-à-dire que ces figures-là qui prennent la parole, qui sont des vraies personnalités aussi, donnent envie de regarder parce que tu les identifies.
Oui, forcément, parce que on l'a vu avec la génération de Wendy Renard à partir de 2011, je crois. C'est comme ça que ça s'est fait. Elles ont été un peu plus connues auprès du grand public. Elles ont été mises un peu plus en avant. Et ensuite, les gens les connaissaient vraiment, elles, en tant que footballeuses. Et du coup, ça fait qu'ils s'intéressaient à beaucoup plus. Et même en dehors du foot, on les identifiait bien. Et c'est ce qui a permis aussi que cette génération soit quand même suivie et aimée.
Est-ce que tu regardes du foot féminin, toi ? d'autres matchs. C'est la question qu'on se posait.
Non, je regarde après. Après, comme je disais, bah, ce week-end, j'étais en Angleterre
ouais.
Et bah, ça m'a permis de faire une comparaison aussi. C'est que,
ouais.
Bah ouais, c'était vraiment top et on en rêve de cette affluence-là. C'est ce qu'on aimerait avoir tous les week-ends, même si c'est compliqué parce qu'il y a aussi les matchs des garçons. Là, comme c'est la trêve, je pense qu'il y avait un peu plus de personnes aussi dans les stades pour voir ce match-là. Mais
ouais,
on aimerait tendre à ça tous les week-ends, pourquoi pas.
Il y a des joueuses actuelles ou passées que tu admires particulièrement ?
Bah moi, j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer énormément de grandes joueuses. Je pourrais pas en citer qu'une.
Vas-y.
Ouais, je pourrais pas en citer qu'une. Et franchement, bah, l'Olympique Lyonnais, c'est vrai que ouais, j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer énormément de grandes joueuses, pouvoir jouer avec énormément de grandes joueuses. Et ouais, c'est une richesse que j'ai pu avoir et une chance aussi.
Tu sens quand même qu'entre vous, parce qu'on dit souvent que le football, c'est un sport de concurrence, que tu peux être facilement remplacé, parce que forcément, vous êtes sur les mêmes postes. Est-ce que tu trouves quand même qu'au sein du foot, il y a quand même une sorte de sororité, tu vois, enfin, d'entraide ou, tu vois, de bienveillance les unes avec les autres?
Ouais, c'est ce que je dirais. Bah, surtout nous, dans notre groupe, en tout cas, je me dis que ouais, si on a réussi à gagner autant de titres, c'est que bah le groupe vivait
le groupe
bien en fait. C'est ça. c'est vrai. En plus, c'est une chance parce qu'on a quand même énormément de nationalités, énormément de caractères différents, et en fait, on sent que bah voilà, on tend toutes vers un objectif commun, et à partir de là, bah ça se passe super bien. Après, on a une unité dans le groupe qui est quand même assez folle. Ça fait des années, enfin, qu'il y a un noyau quand même. Après, il y a toujours des filles qui viennent autour, mais il y a toujours cette unité-là. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça bouge pas.
En équipe de France, c'est plus compliqué d'avoir ça, vu que vous venez toutes de clubs concurrents.
Ouais, c'est ça. En gros, c'est comme on joue pas forcément toutes ensemble le week-end, on s'entraîne pas forcément toute l'année ensemble. C'est plus compliqué d'avoir cette homogénéité-là. Même si, honnêtement, ça se passe super bien, on rigole bien ensemble, etc. Mais après, c'est sûr que niveau automatisme, comme dans toutes les sélections, c'est un peu plus compliqué d'avoir ces automatismes-là. Même si, comme je dis encore une fois, l'ambiance est vraiment top, quoi.
Ouais, et ça, j'imagine qu'après, vous, vos saisons sont tellement remplies aussi que c'est compliqué de trouver aussi peut-être plus de moments de groupe avec l'équipe de France.
Oui, forcément. Après, c'est compliqué aussi de se réunir parce que le groupe change aussi. Filles sélectionnées changent, donc ça serait compliqué de se réunir en dehors des sélections, en fait.
C'est quoi justement toi, pour toi, les points fondamentaux d'une bonne équipe?
Forcément la solidarité, le dépassement de soi. Les automatismes aussi, l'aspect tactique aussi, ça joue. Et ouais, l'aspect mental aussi, je pense.
Comment toi, tu te situes dans un groupe? Parce qu'on sent que t'as une personnalité assez calme, posée, zen. Je me trompe?
C'est ça, c'est un peu ça. Mais à l'inverse, je peux être, pas... extraverti non plus, mais je peux être chambreuse quand même.
Ouais.
Je suis quelqu'un de calme et j'aime bien chambrer. Et quand je suis à l'aise, ça y est pas.
Donc t'as vraiment deux personnalités?
Pas deux personnalités, je dirais pas ça, mais on va dire une petite personnalité un peu dissimulée.
Bah d'ailleurs, pour la petite anecdote, on s'est déjà rencontrés, mais tu ne te souviens pas de moi. À l'OL, pour le shooting de vos nouveaux maillots.
Mm-hmm.
Je faisais partie de l'équipe qui organisait. Et effectivement, j'étais donc moi je vous ai vu en backstage posé pour les photos et tout. Et effectivement, ça chambre un peu.
Ah ouais. Ouais. Ouais.
Franchement,
énormément même.
Avec Melvin, il y avait un peu de chambrage.
Melvin, de toute façon, entre elle et moi, c'est que ça.
Donc effectivement, j'ai pu l'observer de mes yeux. Et c'est vrai que c'est agréable parce que j'ai eu la chance effectivement de vous voir en off et on sentait vraiment qu'il y avait une atmosphère de fou.
Ouais.
Alors c'était pour un shooting photo. Mais on sent.
Mais c'est comme ça partout, même dans le vestiaire et tout. Donc c'est toujours comme ça. Et même quand il y en a une qui va pas très bien, on essaye tout le temps d'être là pour elle et tout. Et franchement, c'est vraiment.
Bah, c'est vraiment une famille, en fait, l'OL. Et ouais, on a la chance de pouvoir être dans ce groupe et de pouvoir... Bah, moi, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer et ça fait des années que j'y suis maintenant. Et peu importe le groupe, en fait, j'ai vu cette unité-là, donc c'est top.
Ouais, dans une période qui est un peu compliquée pour toi, elles sont hyper présentes.
Ouais, ouais, franchement, j'aurais galéré, je pense, ces derniers temps si elles n'avaient pas été là. Et franchement, il n'y a pas un jour où j'étais seule. Ils se sont tous relayés pour venir me voir, même avant mon opération à l'hôpital. Ils se sont tous relayés, que ce soit le staff. Enfin, il y a vraiment eu beaucoup de visites et franchement, ça m'a vraiment touchée parce que je m'attendais pas à avoir autant de monde. Et au final, ouais, j'ai reçu énormément de soutien, donc ça fait plaisir.
C'est ce qui te permet de garder la patate, là?
Ouais, bah ouais, il y a ça et puis bah ma famille aussi, quoi.
C'est la clé. Les c'est amis, ça. La famille,
exactement.
La base.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là, sur les années à venir?
Bah, une bonne santé.
Ouais.
C'est le plus important.
Ouais.
Et bah, des titres. Toujours plus de titres. Et
toujours
un titre plus. En équipe de France.
On retient une dernière petite question pour clore ce petit entretien.
Mmh.
Le podcast s'appelle Championne du Monde, donc
d'accord.
Je vous le souhaite.
Okay.
J'espère que ce sera une prédiction.
Bah, j'espère aussi.
Si tu devais donner, toi, ta définition de ce qu'est une championne, tu dirais quoi?
Bah, c'est quelqu'un qui ne lâche pas. Et qui reste focus sur ses objectifs, peu importe ce qui se passe. Peu importe les aléas, que ce soit les blessures, les défaites, et qui se sert aussi de ses échecs pour pouvoir rebondir et aller toujours plus loin.
Super. Eh ben, merci Gretch pour ce petit moment.
Ben, merci à toi.
Et je te souhaite un bon rétablissement.
C'est gentil, merci beaucoup.
Et puis beaucoup de titres avec l'OL. Bon, ça va. Généralement, vous êtes c'est déjà pas mal. Et avec l'équipe de France.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport féminin. À bientôt!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.